d'aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgan Diriek et Abdourahmane Dia en direct de la capitale américaine. Vendredi 17 mai 2019, Le Monde Aujourd'hui, édition de 17h30, temps universel. Au sommaire ce soir.
En Côte d'Ivoire, 9 morts et 84 blessés depuis mercredi à Béoumi, dans le centre du pays, dans des affrontements entre Baoulé et Djoula.
Dans cette affaire d'hier, on peut dire que ça a été le feu à la poudre des événements qui se sont passés à la suite des élections municipales.
Au Tchad, 13 villageois ont été tués dans une attaque de Boko Haram dans la province du lac Tchad.
Au Soudan, des manifestants ont démantelé des barricades et menacent de les rétablir si les militaires ne reprennent pas les négociations.
En Algérie, le Ramadan n'a pas entamé la détermination des manifestants sortis massivement à Alger pour un 13e vendredi.
Plusieurs policiers afghans ont été tués par erreur dans un bombardement américain.
Vous aurez aussi vos rendez-vous quotidiens sur l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Manifestation monstre à Alger, une foule immense a défilé dans le centre de la capitale pour un 13e vendredi consécutif. Ils réclament le départ de ce qu'ils appellent le système, dont le président par intérim, qui était proche de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Sur place, une correspondance de Mehdi Alioui.
En Algérie, le Hirak, où le soulèvement populaire contre le pouvoir en place s'est poursuivi pour un 13e vendredi consécutif, le deuxième du mois de Ramadan. Les manifestants étaient aujourd'hui encore plus nombreux à exprimer le refus d'un état militaire. À Alger, ils ont défié un dispositif policier intimidant et répressif. La Grande Poste, lieu de rassemblement préféré des protestataires, était hermétiquement bouclée par les forces de l'ordre. Les barrages filtrants installés sur les routes ont été renforcés et les premiers manifestants ont été refoulés. Il aura fallu attendre la fin de la prière musulmane du vendredi pour qu'une marée humaine déferle sur les principales rues d'Alger Centre. Lors de cette manifestation monstre, les protestataires ont de nouveau ciblé le chef de l'armée algérienne, Gaït Salah, qui, dans ses précédents discours, avait sommé les Algériens de participer aux élections indésirables du 4 juillet. Gaït Salah dégage. Nous voulons un état civil, pas militaire. Il n'y aura pas d'élections, bande de voleurs, scandait-il. À Alger, malgré une température caniculaire, les manifestants ont assiégé la Grande Poste durant plusieurs heures jusqu'à ce qu'ils réussissent à s'y rassembler. Résistant à la soif et aux jeûnes, les Algériens ont également marché dans les autres villes du pays. Mehdi Alioui, Alger, VOA Afrique.
Au Soudan, les manifestants ont démantelé des barricades à Khartoum, mais ont menacé de les rétablir si les généraux ne reprenaient pas les négociations sur le transfert du pouvoir. Yacouba Ouedraogo.
La fermeture du boulevard du Nil par l'une de ces barricades a poussé l'armée à suspendre le dialogue avec les leaders de la protestation. Le chef du conseil militaire a justifié cette suspension par la dégradation de la sécurité. Le général Abdel Fattah al-Burhan a cité les barrages routiers hors du lieu du sit-in devant le QG de l'armée, la fermeture d'une ligne de chemin de fer et des provocations contre les forces de l'ordre. Les manifestants ont regretté cette suspension, mais réaffirmé leur volonté de maintenir la mobilisation. Ces barricades étaient destinées à mettre la pression sur les généraux pour qu'ils cèdent le pouvoir aux civils. Mercredi, les deux parties devaient discuter de la composition d'un conseil souverain, mais les négociations ont buté sur les quotas. Les militaires veulent la majorité, alors que les manifestants exigent que cette institution soit dominée par des civils. Les deux camps ont toutefois réussi à s'entendre sur une transition fixée à 3 ans et la composition d'une assemblée législative qui devrait comprendre 300 membres, dont les 2/3 seront des civils.
Dans l'ouest du Tchad, 13 habitants d'un village ont été tués hier dans une attaque de combattants du groupe Boko Haram près du lac Tchad. Le point avec Lionel Gaïma.
Des islamistes armés ont attaqué le village de Séilia à une 40aine de kilomètres de Bol, chef-lieu de la région du lac Tchad. D'après Dimouya Soyapébé, secrétaire général de cette province, les éléments de Boko Haram ont tué 4 personnes, dont le chef de village et sa famille. Ils ont incendié une partie du village, ont tué 9 autres personnes avant de vider les lieux. L'armée n'a pas eu l'occasion d'intervenir, a-t-il ajouté, précisant que 2 des victimes avaient été égorgées. Selon lui, les combattants de Boko Haram sont venus très tôt le matin surprendre les villageois en plein sommeil pendant ce mois de Ramadan. Depuis juin 2018, au moins 7 attaques de Boko Haram ont été recensées en territoire tchadien. L'insurrection djihadiste a débuté en 2009 dans le nord-est du Nigeria et touche maintenant le Cameroun, le Niger, le Tchad voisins. Elle aura fait plus de 27 000 morts et près de 2 millions de déplacés.
Par ailleurs, International Crisis Group appelle les autorités tchadiennes à renoncer à l'option militaire à Miski dans la région frondeuse du Tibesti qui risque de pousser les jeunes dans les bras des groupes rebelles basés en Libye et de déstabiliser la région. La région de Miski dans les montagnes du Tibesti est le théâtre d'affrontements récurrents entre l'armée tchadienne et des orpailleurs.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, au moins 5 civils et 1 militaire ont été tués dans une attaque attribuée aux miliciens des ADF dans le territoire de Beni, sur la route entre Mbao et Kamanaga, vers la frontière avec l'Ouganda. Des civils ont été surpris dans les champs par les ADF et qui ont exécuté 5 à la machette et ont emporté 2 autres, a déclaré l'administrateur du territoire de Beni.
Toujours dans l'est de la RDC, des milliers de civils fuient des combats entre l'armée et des milices dans la province du Sud Kivu. Ces déplacés se trouvent dans le territoire de Fizi, dans la commune de Minembwe. Ils sont 25 000 à Minembwe centre, a estimé le bourgmestre adjoint Charles Sadiki. Leurs maisons ont été incendiées et pillées. Les gens passent la nuit à l'extérieur, a-t-il ajouté.
RDC toujours, un policier a été arrêté. La population est de nouveau descendue dans la rue pour marquer sa colère après la mort d'un enfant de 12 ans tué la veille par un policier à Kiwanja, dans l'est du pays. Les habitants exigent que le policier soit jugé.
Côte d'Ivoire, 9 personnes sont mortes, 84 autres blessées dans des affrontements entre Baoulé et Djoula, mercredi et jeudi, donc à Béoumé, dans le centre du pays. Nous y reviendrons en partie magazine.
Niger, le groupe État islamique a revendiqué l'attaque de mardi où 28 soldats ont été tués et l'assaut de lundi contre la prison de Koutoukale. Les combattants de l'État islamique ont tendu une embuscade aux forces de sécurité nigériennes, a annoncé hier soir AMAC, l'agence de propagande du groupe État islamique.
Les Émirats arabes unis annoncent la libération de 3 ingénieurs philippins et d'un autre sud-coréen enlevé en juillet 2018 en Libye, précisant qu'elle a été le résultat d'efforts communs avec les forces du maréchal libyen Khalifa Haftar.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Afghanistan, au moins 8 policiers ont été tués par erreur et 12 autres blessés hier soir lors d'un bombardement aérien américain dans le sud du pays. Nathalie Barge.
Au cours de combats avec les talibans à Lashkar-Gah, dans la province du Helmand, nos partenaires afghans ont demandé un soutien aérien de précision, a indiqué David Butler, porte-parole de l'armée américaine en Afghanistan. Il a expliqué qu'une unité de coordination afghane avait signalé et confirmé que les zones étaient libres de forces amies, mais que malheureusement elles ne l'étaient pas et un tragique accident s'en est suivi. Des forces de sécurité afghanes ainsi que des combattants talibans ont été tués lors de ces frappes, a-t-il ajouté. Le bilan varie selon les sources entre 8 et 18 policiers tués et une dizaine de blessés. Le colonel Butler dit regretter ses pertes de vie et que le Pentagone va examiner le malentendu pour s'assurer qu'il ne se répétera pas. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Nashrat Rahimi, a indiqué qu'une délégation conjointe a été nommée pour mener des enquêtes.
L'Iran a appelé ce vendredi Pékin et Moscou à des actes concrets pour sauver l'accord sur le nucléaire. Mohamed Javad Zarif, en rencontrant à Pékin son homologue chinois Wang Yi, a indiqué que la Chine et la Russie doivent travailler ensemble afin de préserver un ordre mondial multilatéral et éviter un ordre mondial unilatéral. C'est donc ce qu'il a déclaré aujourd'hui à Pékin. La visite de Zarif intervient en pleine crise entre l'Iran et les États-Unis.
Donald Trump a annoncé ce vendredi qu'il accordait jusqu'à 6 mois de répit, notamment à l'Union européenne et au Japon, avant de décider d'imposer ou non des droits de douane supplémentaires dans le secteur automobile. Le représentant américain au commerce doit poursuivre les négociations d'accord et devra informer le président américain des résultats des négociations, selon un communiqué de la Maison-Blanche. L'Union européenne dit avoir pris acte et prête à négocier avec Washington.
Le pape François a accepté la démission de l'évêque brésilien de Limeira, Monseigneur Wilson Dias de Oliveira, fait l'objet d'une enquête de la justice civile du Brésil pour soupçon de couverture d'abus sexuels et d'extorsion auprès de prêtres, selon la presse brésilienne. Les enquêteurs tentent de savoir s'il a couvert des cas d'abus sexuels par un prêtre.
Les Nations Unies disent avoir distribué des pièces d'identité à plus de 250 000 Rohingyas réfugiés au Bangladesh après avoir fui des violences en Birmanie. Ce document doit leur permettre de retourner en Birmanie lorsque les conditions seront réunies pour le faire. Pour nombre d'entre eux, c'est la première fois qu'ils possèdent un document d'identité individuelle. Le pays ne leur reconnaît pas la nationalité birmane.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Nanit Talani. Bonsoir Nanit.
Bonsoir Morgane. Les autorités tanzaniennes ont infligé une amende de 2,4 millions de dollars à la société canadienne Acacia Mining pour avoir pollué l'environnement aux abords de sa mine North Mara Gold dans le nord du pays. Le ministère de l'Environnement reproche à Acacia Mining de laisser couler depuis des décennies des déchets toxiques dans les cours d'eau autour de la mine, mettant ainsi en danger la santé des habitants et de leur bétail. Le gouvernement tanzanien a aussi donné 3 semaines à la compagnie pour mettre définitivement fin au problème sous peine de sanctions plus sévères. En Zambie, le nouvel impôt destiné à remplacer la TVA entrera en vigueur le 1er juillet. Le président Edgar Lungu a prévenu les entreprises qu'elles sont libres de quitter le pays, ce qui suscite une forte inquiétude dans le secteur minier. Les groupes Vendata et Glencore s'y opposent vivement, mettant en garde contre un risque de suppression d'emplois dans les mines. Pour terminer, cette année, la Côte d'Ivoire prévoit de transformer 130 000 tonnes de noix de cajou, soit environ 18% de la récolte attendue cette année, qui est de 730 000 tonnes. D'après Adama Koulibaly, directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde, 4 nouvelles unités de transformation devraient être mises à l'essai durant cette campagne.
Merci Nanit.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
On aura une finale Côte d'Ivoire-Nigeria au tournoi UFOA B Dames.
Oui, les deux pays ont décroché leur ticket hier à Abidjan. En première demi-finale, la Côte d'Ivoire a souffert avant de l'emporter 2-1 sur le Mali. Mené au score sur une ouverture de Bassira Touré, les éléphantes ont égalisé par Koko Nguessan avant d'inscrire le but du succès par Mariam Diakité. La seconde demi-finale s'est décidée dans les tirs au but. Dans le choc de ce dernier carré entre le Ghana et le Nigeria, le temps réglementaire n'a pas connu de but 0-0. Les Super Falcons se sont alors montrés plus à droite dans la séance des tirs au but, 4 contre 2.
Yaya Touré a laissé en Chine dans un club de D2.
Oui, l'ex-international ivoirien a été aperçu à son arrivée à l'aéroport de Qingdao et des médias britanniques ont affirmé qu'il était sur le point de signer un contrat avec Yungay, actuellement en tête de la deuxième division. Mais un porte-parole du club chinois a déclaré que le joueur était simplement à l'essai pour le moment. Yaya Touré, qui a empilé 3 titres de champion d'Angleterre en 7 saisons avec les Citizens, a quitté Manchester en fin de saison dernière, frustré par son faible temps de jeu. Son agent avait affirmé sur Twitter qu'il avait mis fin à sa carrière de joueur et souhaitait se reconvertir en entraîneur. Mais Yaya Touré l'a contredit dimanche.
La Juventus et Massimiliano Allegri se séparent.
Oui, le club turinois a annoncé que son entraîneur ne serait plus aux commandes de l'équipe la saison prochaine. Allegri était arrivé il y a 5 ans sous les sifflets des tifosi turinois qui le qualifiaient d'homme de l'AC Milan. 5 ans plus tard, il s'en va après avoir alourdi l'étagère à trophées de la Juve avec 5 titres de champion, 4 coupes d'Italie et 2 supercoupes d'Italie. Malgré un nouveau titre emporté en Serie A, le 8e d'affilée pour le club bianconero, l'échec face à l'Ajax en quart de finale de la Ligue des Champions a fragilisé Allegri, critiqué depuis en Italie pour un jeu jugé trop frileux et attentiste.
On termine par la NBA. Golden State souffre mais double la mise.
Oui, le double champion NBA en titre a été malmené à domicile par Portland, mais s'est finalement imposé 114 à 111 lors du match numéro 2 de la conférence Ouest. Golden State mène 2-0 et n'a plus besoin que de 2 succès pour disputer sa 5e finale NBA consécutive. Mais les 2 prochains matchs, demain et lundi, auront lieu à Portland et les Blazers ont montré qu'ils pouvaient poser de sérieux problèmes aux Warriors.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Diriek et Abdourahman Dia. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour.
Et on commence. On va en Côte d'Ivoire où, mercredi dernier, une altercation entre un apprenti Gaka et un chauffeur de moto-taxi a dégénéré pour donner lieu à un conflit intercommunautaire entre Baoulé et Djoula. Conflit qui continuait de compter ses victimes jusqu'à ce jeudi soir. Aïcha Diarra, depuis Boaké, nous en dit plus.
Quitter Boaké jusqu'à Béoumi, il faut parcourir environ 63,4 km. Déjà à 20 km de Béoumi à Golikro, les premiers barrages installés par les jeunes Baoulés dans leur village se signalent. Contrôle obligatoire. Dans chaque village se trouvent 3 à 4 barrages de ce genre. La tension est vive et les jeunes gens ont en main des machettes, fusils de chasse et morceaux de bois. Voitures et motos sont calcinées. Impossible de traverser la ville sans emprunter de chemin détourné. À 1 km de la ville, nous devons utiliser une déviation. Une fois à Béoumi,
oui.
Des bruits d'armes à feu. Pourtant, il s'agit bien d'un conflit intercommunautaire et non militaire. Nous nous rendons donc à l'hôpital de Béoumi où sont internés plusieurs blessés, mais impossible de leur parler. Qu'est-ce qui a envenimé autant cette situation? Chacun a sa version des faits, mais pour la version Baoulé, notre interlocuteur veut garder l'anonymat. Nous l'appellerons Kofi.
Dans ce qu'on peut dire, c'est la suite des événements qui se sont passés lors des élections municipales qui est en train de se poursuivre actuellement. Voilà, donc cette affaire d'hier, on peut dire que ça a été le feu à la poudre des événements qui se sont passés à la suite des élections municipales.
Traverser la ville ce jour était très risqué, donc nous sommes entrés en contact avec un jeune Djoula que nous allons appeler Koulibaly pour avoir eux aussi leur version des faits.
Et le mercredi, vu le déchaînement des jeunes Baoulés, les Djoulas se sont organisés pour mettre de l'ordre dans leurs affaires, c'est-à-dire que, préserver leurs biens. Mais les jeunes Baoulés ne voulaient rien comprendre. Ils ont commencé à brûler certains magasins et certains commerces. Et donc, c'est ce qui a fait qu'arrivait un moment qu'a dégénéré.
C'est le jeudi soir, aux environs de 15h, que les autorités ivoiriennes ont renforcé le dispositif sécuritaire des forces de l'ordre à Béoumi afin d'éviter le pire. Aïcha Diarra, à Boaké, pour VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Bénin, les députés ont été investis hier pour un mandat de 4 ans. C'était au cours d'une cérémonie placée sous haute surveillance des forces de sécurité. Les tractations continuent pour l'élection du bureau du Parlement. Le point avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Ferradondé.
Conscients des conditions dans lesquelles ils ont été élus, les 83 députés de la 8e législature mesurent l'ampleur du défi à relever. Bakleme Kassa livre ici ses impressions après la cérémonie d'installation jeudi au Palais des gouverneurs à Porto-Novo.
La politique, ce n'est qu'une procédure. Le vrai combat, c'est le développement. Parce qu'on va veiller à ça.
En dehors des rôles de députés, nous savons ce qui nous revient, ce que nous devons faire. Nous devons tout faire pour que le Bénin soit un pays exemplaire. Nous devons le construire et y vivre.
Mariam Baba Moussa est l'une des 6 femmes élues dans cette nouvelle assemblée.
La 8e législature est la législature de tous les défis. Défi du développement de notre pays, défi de conquérir la confiance du peuple, défi de se remettre à l'œuvre et de travailler tous ensemble pour le développement de notre pays.
Sur l'esplanade du Palais des gouverneurs à Porto-Novo jeudi, il y avait aussi quelques membres des organisations de défense des droits de la femme. Pour Blandine Yaya, la promotion des femmes reste encore un rêve lointain.
On aurait tout au moins maintenu les 7 à l'Assemblée, mais maintenant on a eu 6, donc c'est un véritable recul pour les droits des femmes dans notre pays. Les hommes se mettent devant et les femmes derrière. Les 3 premiers ou les 2 premiers sur la liste, souvent c'est des hommes. C'est comme si les hommes continuent de reléguer les femmes au second plan.
La population attend beaucoup des nouveaux députés, surtout quand on sait qu'ils sont tous issus de la mouvance présidentielle. Christian Beaupré est un vendeur de portables à Porto-Novo.
Que ces députés installés œuvrent uniquement pour le développement de notre pays et non pour des volontés égoïstes. Et qu'on ne vote pas certaines lois par pression.
Qui pour contrôler le perchoir afin de donner plus de crédibilité au Parlement? La question reste posée. De Cotonou, Ginette Cloadandé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
La capitale malienne Bamako s'est levée hier les pieds dans l'eau. La grande canicule insupportable a été suivie d'une pluie battante qui a provoqué des inondations meurtrières. Bilan 16 morts et des blessés, plusieurs dégâts ont été causés dans beaucoup de quartiers. Kassim Traoré depuis Bamako.
Tout a commencé par un vent violent, suivi de grosses gouttes de pluie. Pendant 6 heures de temps, il pleuvait sur Bamako. Lieutenant-colonel Bakary Daou, directeur régional de la protection civile de Bamako.
3h10, on s'en était alerté par un citoyen pour dire qu'il y a une inondation chez lui dans un quartier de Bamako. Aussitôt, lorsqu'on préparait une équipe pour la circonstance, on a été appelé par plusieurs citoyens, une quarantaine d'appels, pour nous prouver qu'il y a inondation à travers Bamako. Aussitôt, on a déployé nos forces sur place et 24 équipes ont été déployées pour quand même porter secours et assistance aux citoyens de Bamako.
Selon la météo, 338 mm d'eau ont coulé dans la capitale malienne, ce qui n'a pas été sans conséquences pour les habitants de Bamako. Fadi Sila, ménagère.
Et les constats sont vraiment déplorables. On a constaté que des maisons ont été envahies. Bon, les goudrons, n'en parlons pas. Et le dégât qui s'est propagé dans les familles. Le problème d'abord vient de nous et ensuite c'est vrai, la pluie a été vraiment, vraiment très, très grande, mais bon, si ce dégât a ravagé certaines maisons, cela est dû non seulement à la constitution de la maison, mais aussi des habitants.
Certaines rues de Bamako étaient impraticables, créant des embouteillages partout dans la circulation. Oumou Traoré, fonctionnaire.
Et c'est venu bon, ça fait presque toute la nuit, hein.
Il y a eu des inondations partout, et puis j'ai vu les marchés. Bon, j'ai regardé dedans. Bon, jusqu'à présent, l'hiver n'est pas commencé. Mais ce qu'on a constaté, il faut que les autorités et les peuples maliens se lèvent vraiment d'être à la hauteur pour prévenir.
Les quartiers périphériques de Bamako, avec des maisons en banco ou encore des constructions dans les lits de fleuve, ont été les plus frappés. Lieutenant-colonel Bakary Daou, directeur régional de la protection civile.
On a constaté qu'il y avait vraiment une inondation très dure, très pénible, qui a cassé des maisons, qui a écroulé des maisons et qui a causé des dommages énormes, parce que qui a causé la perte de 13 personnes, des dégâts très importants, parce que même des véhicules ont été emportés.
Deux raisons principales sont évoquées par la protection civile.
La première raison, c'est une pluie de surprise. De telle sorte que les gens ont été surpris dans leur domaine, dans leur domicile. Selon moi-même, la vraie cause, c'est que les gens se sont allés s'installer dans l'imagerie des marigots. Que les citoyens sachent qu'il vaut mieux ne pas avoir un domicile à Bamako que d'avoir un domicile dans un bas-fond. On met en péril notre vie ou notre bien ou toute notre économie qu'on fera et on va perdre un jour.
Les inondations de Bamako ont fait pour le moment 16 morts, 2 blessés et 324 sinistrés. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24 heures sur 24.
Le président Donald Trump a annoncé hier son plan d'immigration qui prévoit l'arrêt des visas liés à la loterie américaine, une réduction drastique du nombre de visas de parrainage familial, ainsi que l'adoption d'un système fondé sur le mérite. Qu'est-ce que ce plan signifie pour l'immigration aux États-Unis? John Lindon a posé la question à Maître Joseph Fa, avocat dans l'État du Maryland.
Je ne pense pas que ça signifie grand-chose parce que si vous constatez bien, il n'y a pas un plan d'action concret de mise en œuvre de ces propositions. Il ne vous a pas présenté un document concret ou alors une procédure de mise en œuvre. Donc moi, je pense que ça fait encore partie de ses idées pour essayer d'émouvoir ses électeurs comme on est en train de se préparer pour l'entrée dans les élections prochaines.
Qu'est-ce que l'Afrique ou les Africains peuvent gagner dans cette nouvelle politique si jamais elle venait à se mettre en place?
Cette politique de Donald Trump n'apporte rien de nouveau dans le monde de l'immigration. Si vous connaissez un peu sur le droit des États-Unis, si on a déjà ici, même à l'intérieur, une procédure de visa prévue pour les gens qui ont un mérite exceptionnel dans l'éducation. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, pour ceux qui sont à l'étranger, qui voudraient venir ici, quand M. Donald Trump demande que ce soit basé sur le système de mérite, nous connaissons nos formations universitaires dans les universités africaines. Personne, peu sont ceux qui suivent des formations adéquates sur place en Afrique pour pouvoir atteindre le niveau de mérite dont parle M. Trump. Donc, s'il va falloir implémenter ce plan au départ de l'octroi des visas, personnes seront regardées. Pourtant, ce sont des gens très, très intelligents. Vous comprenez donc, pour moi, c'est un programme un peu tordu. Je ne sais pas, vous me passez l'expression, je pense que ce n'est pas vraiment calculé et je ne sais pas comment est-ce que cela va aider les gens.
Donald Trump évoque également dans son discours une possibilité d'éliminer ce qu'on appelle aujourd'hui la loterie américaine. Beaucoup d'Africains viennent aux États-Unis par ce moyen. Est-ce qu'il y a des chances que cela se concrétise, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de loterie américaine demain?
Bon, moi, je pense qu'il n'y a pas de chance, vraiment, parce que M. Trump, souvenez-vous, ce n'est pas lui qui décide des lois. Bien sûr qu'il a le pouvoir exécutif, il peut prendre certaines actions qui relèvent essentiellement du pouvoir exécutif, mais la plupart des lois américaines, y compris des lois sur l'immigration, sont votées au niveau du Congrès. Donc, il peut prendre des décisions telles qu'il le veut. Il va falloir que ce soit voté au niveau de l'Assemblée. Et rassurez-vous, il y a beaucoup de parlementaires qui ont dit déjà que toutes ces propositions sont mortes même avant d'entrer au Parlement. Donc je ne pense pas qu'il y ait des chances vraiment que ces lois soient implémentées. Ce sont, je vais dire, des très bonnes idées pour lui et pour sa base électorale. Mais en termes de législation, je doute fort que ce soit une législation qui sera implémentée ou bien qui sera mise en œuvre dans un futur.
Il y a cette question des « Dreamers » qui n'a pas été évoqué dans le discours de Trump. Est-ce que eux, au moins, s'il y a des possibilités que leur situation soit régularisée?
Demandez-vous bien pourquoi est-ce que M. Trump est en train d'esquiver cette question de DACA, cette question de Dreamer, des gens qui sont partis de leur pays avec leurs parents et qui sont ici depuis plusieurs années. Pourquoi est-ce que M. Trump ne veut pas adresser cette question? Pourquoi est-ce qu'avec ceux qui sont aux frontières, on n'a pas trouvé une solution finale? On a parlé du problème de lever le mur. On n'a pas fini avec ça. Aujourd'hui, on est en train d'attaquer la problématique des étrangers qui doivent être intelligents. Et on n'adresse pas le problème le plus crucial qui est sur le sol américain. Ceux qui sont déjà là, qu'est-ce que vous en faites?
Voilà, c'était Maître Joseph Fa, avocat dans l'État de Maryland.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Lisanga ya banganga, oyonde bokutani, yoka mingongo ngoa.
Boningo nanga. Stuck on you, got a feeling down deep in my soul that I just can't close. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad to say.
Voilà, c'est Stuck on You de Lydia Lawrence.
C'est sur ce beau choix de Lionel Gaïma qu'on se quitte. À la console, il y avait Nelson Lopes. Présentation Morgane Guerriec et Abdourahman Diar.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24/24. Au revoir.
I'm late.
Afrique, les infos.